VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manilakiza, toujours avec vous dans ce bulletin d'information. Au Maroc, les secouristes volontaires et membres des forces armées s'activent pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres dans des villages rasés par un puissant séisme qui a fait plus de 2100 morts et 2421 blessés au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech. Selon la télévision publique, plus de 18 000 familles ont été affectées dans la province d'Al-Haouz. Un deuil national de 3 jours a été décrété samedi. Une prière de l'absent doit être accomplie ce dimanche dans l'ensemble des mosquées du royaume pour l'âme des victimes. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Italie ont proposé leur aide. L'Espagne a envoyé une équipe de 56 secouristes au Maroc. L'Algérie voisine a ouvert son espace aérien, fermé depuis 2 ans, aux vols transportant de l'aide et des blessés. Tous les opérateurs de téléphonie mobile français offrent à leurs clients des appels et textos gratuits vers le Maroc. Des groupes armés signataires d'un important accord de paix dans le nord du Mali ont déclaré ce dimanche se préparer à se défendre militairement contre la junte au pouvoir à Bamako qu'ils accusent de violer les engagements sécuritaires mutuels. Le cadre stratégique permanent qui réunit ces groupes a appelé dans un communiqué les civils à s'éloigner des installations et des lieux d'activité militaire. La coordination des mouvements de la Zawad CMA a affirmé samedi soir avoir abattu un avion de l'armée malienne après un bombardement sur ses positions dans la région de Gao. L'armée malienne a parlé d'incidents concernant un de ses appareils sans plus de détails. Le régime militaire nigérien, issu d'un coup d'État, a accusé la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest africains en vue d'une agression contre le Niger. Paris a répondu ce dimanche ne reconnaître aucune légitimité aux déclarations des putschistes. Le président français a réclamé la libération du président Mohamed Bazoum, qui est toujours considéré par la France comme le chef de l'État légitime, ainsi que la restauration de l'ordre constitutionnel. En outre, le président Macron a déclaré qu'un éventuel redéploiement des forces françaises au Niger ne sera décidé qu'à la demande du président Mohamed Bazoum. L'Égypte a dénoncé ce dimanche la fin du remplissage du grand barrage de la Renaissance sur le Nil, annoncé par l'Éthiopie, fustigeant une action illégale et unilatérale, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Caire affirmait que cette action pèsera sur les négociations entre les 3 pays, interrompues depuis avril 2021 et qui ont repris le 27 août dernier, a indiqué le ministère. Khartoum et le Caire voient le barrage comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Au moins 46 personnes ont été tuées et des dizaines blessées ce dimanche à Khartoum dans l'un des raids les plus meurtriers de l'armée de l'air sur la capitale du Soudan, ravagée par la guerre depuis près de 5 mois. L'Ocean Viking, navire ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru 68 migrants en détresse dans les eaux internationales au large de la Libye ce dimanche matin, a annoncé l'ONG humanitaire basée en France. Ailleurs dans le monde, le président américain Joe Biden a prédit ce dimanche le début d'une ère de coopération encore plus grande avec le Vietnam. Joe Biden s'est rendu à Hanoï sur la lancée du sommet du G20 à New Delhi et avec le même objectif que lors de cette grande rencontre internationale, affirmer la puissance américaine en Asie et ce, aux portes de la Chine. Il a annoncé avoir conclu un partenariat stratégique étendu entre les 2 pays lors d'une rencontre avec le chef du Parti communiste au pouvoir. Le G20 s'est engagé à soutenir pour la première fois l'objectif de tripler la capacité mondiale en matière d'énergie renouvelable d'ici 2030. Mais les dirigeants du G20 sont profondément divisés quant à l'attitude à adopter face à la guerre en Ukraine. Le G20 a également échoué à appeler à une sortie des énergies fossiles à 3 mois de la 28e conférence climat des Nations Unies et alors que l'année 2023 est en voie de devenir la plus chaude jamais connue par l'humanité. Parmi les réussites de ce sommet figure notamment l'intégration de l'Union africaine.
Tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous. La mise en onde est assurée par Georges Léonard Sagnon. Ce soir, nous parlons de la visite du pape François en Mongolie. Le Saint-Père a rencontré des représentants de différentes croyances lors d'une réunion à Oulan-Bator, où il a loué le potentiel des religions pour inspirer le dialogue. Le fait d'être ensemble dans le même lieu est déjà un message. Les traditions religieuses, dans leur originalité et leur diversité, représentent un formidable potentiel de bien au service de la société, a déclaré le pape jésuite durant cette rencontre organisée dans le théâtre Hun. Cette visite a également marqué une tentative de rapprochement avec la Chine voisine. Parlant du paysage religieux, le bouddhisme et le chamanisme sont les deux croyances majoritaires en Mongolie. Le bouddhisme a une longue histoire en Mongolie et est pratiqué par de nombreux Mongols. Le chamanisme, quant à lui, est une religion animiste et traditionnelle. Le judaïsme, l'islam et l'hindouisme sont également présents en Mongolie, mais en minorité. L'Église catholique est une minorité encore plus petite. Chacune de ces religions a ses propres pratiques, croyances et traditions, mais elle partage des valeurs de spiritualité et de foi. Notre invité ce soir, c'est le père Grégor Prichotko. Il est originaire du Kazakhstan, chancelier du diocèse de Pontoise en région parisienne. Il est docteur en droit canonique de l'Institut catholique de Paris et docteur en droit de l'Université Paris-Sud-Saclay, rattachant au laboratoire droit et société religieuse. Il est chargé de cours à la faculté des sciences sociales, d'économie et de droit de l'Institut catholique de Paris. Il est maître en liturgie et spécialiste de l'histoire de l'Église, particulièrement en Asie centrale et en Europe de l'Est. Bonsoir mon père.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous et merci beaucoup de votre invitation.
Merci d'être là avec nous. Toute visite pastorale du pape, et pas seulement François, mais depuis Jean-Paul II, est marqué par le dialogue interreligieux, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous expliquer l'importance du dialogue interreligieux, en particulier dans des régions comme la Mongolie, avec une diversité religieuse?
Alors, il est vrai que chaque rencontre entre les différents représentants ou leaders des religions dans le pays ou même au niveau mondial, c'est une nouvelle étape dans la compréhension justement du rôle du facteur religieux pour la formation des sociétés et du rôle de la spiritualité pour l'évolution de la société moderne. Bien évidemment, cette initiative de pape de rencontrer les représentants des différentes religions au théâtre Hun, ou Un, si on prononce à la française, en Mongolie, on peut vraiment qualifier comme un événement historique comme chacune de ces rencontres. En plus, l'histoire de la religion, des religions en Mongolie, s'y prête, puisque déjà au temps de Genghis Khan, le fondateur de l'État mongol, de l'Empire mongol en 1206. Donc déjà dans ses lois, il déclare la tolérance religieuse malgré une religion officielle qui était un monothéisme lié donc à la vénération du ciel, le tangrisme, et aux pratiques chamaniques, la vénération des ancêtres. Mais il y a eu vraiment une tolérance religieuse vis-à-vis de toutes les autres religions qui étaient déclarées par la loi appliquée dans l'Empire mongol. Donc l'État mongol actuel, l'État mongol moderne, lie beaucoup son histoire et même identité nationale à la figure de Genghis Khan, donc le premier empereur de l'État mongol, qui est effectivement aussi actuellement cette tolérance religieuse, malgré que la majorité, bien évidemment, des habitants sont des bouddhistes. Et que la religion bouddhiste est la religion, disons, officielle de l'État. Et, mais toutes les minorités qui sont présentes, une grande liberté. Et quand nous voyons les voisins de la Mongolie, je pense à la Chine notamment, où la politique religieuse est, peut quelquefois être très répressive, donc cette attitude, c'est quelque chose vraiment de très important. Je crois que c'est pour cela que le pape a tenu à organiser cette rencontre où chacun des représentants de religions diverses et variées, comme nous l'avons vu dans, donc au théâtre 1, pouvait raconter les bases de sa spiritualité et aussi son propre histoire de la présence dans ce pays, trois fois plus grand que la France, par exemple, mais qui n'est pas, dont la population n'est pas très, très élevée, ceci dit. Donc, je crois que cette rencontre est très significative et elle s'inscrit dans toute cette lignée des rencontres initiée déjà par Jean-Paul II avec la rencontre à Assise. Ensuite, il y a aussi des États voisins, je prends pour mon propre État natal, le Kazakhstan, où régulièrement, il y a un forum des leaders des religions mondiales qui s'organise et le pape est allé, et s'est rendu exactement l'année dernière au mois de septembre. Donc, ce dialogue est nécessaire pour que dans le contexte actuel, et le pape le souligne, la religion puisse être le facteur promoteur de la paix entre les nations, qu'il n'a pas dans agenda politique, mais elle peut apporter ses valeurs à la société d'aujourd'hui.
Alors,
c'est pour cela que je pense. Oh oui.
Oui. Comment percevez-vous l'impact de cette visite du pape sur les relations justement entre l'Église catholique et d'autres religions dans la région?
Oui. Il faut dire que la communauté catholique, nous le savons, est très minoritaire en Mongolie, mais sa présence date de très longue date, parce que déjà dans la famille du premier empereur donc de l'État mongol, de Genghis Khan, il y a eu des princesses qui étaient chrétiennes. Donc d'origine, qui appartenait à l'Église perse, ça veut dire nestorienne. Et même un de ses petits-fils, le prince Sartak, a été baptisé dans la religion chrétienne par les prêtres arméniens. Déjà à l'époque, au Moyen-Âge, les chrétiens, y compris les missionnaires latins qui viennent dans l'empire de Genghis Khan, dans l'empire de ses successeurs, aussi surtout sous le règne de Kubilai à la fin du XIIIe au début du XIVe siècle, les dominicains et franciscains apportent justement leur culture, apportent aussi, font des points de mission. Donc cette histoire est très ancienne. Mais il est vrai que des structures officielles, puisque les anciennes structures qui existaient, les archevêchés et les évêchés à l'époque médiévale, sont disparus ensuite. Mais l'actuelle préfecture apostolique a été érigée en 1922, c'est-à-dire au lendemain de l'indépendance de la Mongolie, donc de ce khanat de Mongol de Bogd, qui devient officiellement indépendant depuis 1921, donc pratiquement le lendemain, pour être un point de mission. Mais dans en Mongolie, comme généralement en Asie centrale, les catholiques resteront toujours un nombre très faible, mais ça va être une église très fervente qui va apporter ses valeurs, qui va être présente et qui va vivre dans cette société. Et par exemple, au Moyen-Âge, les chrétiens occupent un rôle très important. Ce sont généralement soit les fonctionnaires de la cour impériale, soit les médecins, soit les juristes. Vous voyez? Et donc, actuellement, bien évidemment, avec l'avènement de la République populaire mongole en 1924 et jusqu'en 1992, le rôle de toutes les religions qui sont persécutées est vraiment diminué. Et puis, jusqu'à la liberté retrouvée par la suite, pas plus que la République populaire mongole est une satellite de l'Union soviétique, une curiosité si on veut, l'actuel alphabet officiel mongol est à l'alphabet cyrillique, donc de l'ancienne Union soviétique, vous voyez. Et c'est pour cela que dans cette liberté qui est retrouvée, il y a un vacuum religieux qui se crée, évidemment. Donc, après l'indépendance, après donc l'avènement de l'État mongol moderne, il y a cette recherche entre les différents acteurs politiques aussi, parce que nous savons que la religion de la majorité de pays, à peu près de même plus de 53% de la population se déclare bouddhiste, dont le chef spirituel est Dalai Lama. Et nous savons très bien que malheureusement, en Chine, il y a des graves tensions par rapport même à la figure de Dalai Lama, qui prône bien évidemment l'indépendance de Tibet et même le sans-siège dans ses relations avec la Chine.
On va parler justement de la Chine tout à l'heure, mais voudriez-vous partager, par exemple, votre perspective sur la manière dont les pratiques religieuses en Mongolie peuvent coexister et interagir avec les autres croyances présentes dans le pays ?
Absolument, absolument. Donc, actuellement, nous savons que le bouddhisme a été imposé par la loi sur les religions, par une loi sur les religions au mois de novembre 1993 comme la religion de la majorité des citoyens. Donc ce bouddhisme, c'est une variété, si j'ose dire, de bouddhisme tibétain, parce que on parle même des bouddhismes, si on veut, mais qui reconnaît Dalai Lama comme le chef spirituel, mais imprégné par la culture locale, culture nomade mongole. Il existe aussi la plus ancienne des religions, qu'on appelle le tangrisme. Tangri, c'est le ciel, un ancien mongol. Donc, c'est une religion monothéiste qui consiste donc en vénération, adoration du ciel. Et la figure d'ailleurs de l'empereur mongol était toujours liée à cet aspect divin du ciel, d'où l'empereur tirait d'ailleurs sa légitimité dans toutes ses lettres. Il disait que je suis l'empereur céleste, etc. Donc voilà. Et cette religion très ancienne est liée aux pratiques chamanistes et elle est aussi très présente en Mongolie. Et c'est la plus ancienne des religions. Ensuite, bien évidemment, il y a le christianisme qui est présent à partir pratiquement de IIIe siècle. Parce que lors de la querelle nestorienne, l'empire byzantin donc commence à chasser les partisans de Nestorius, patriarche de Constantinople, qui se réfugie, effectivement, ses partisans se réfugient en Asie centrale, vont plus loin jusqu'à la Chine du Nord et pratiquement jusqu'à l'extrême Orient, et qui vivent dans cette société mongole très tolérante par rapport aux autres religions. Voilà. Donc, concernant l'islam, nous savons que les premières indications sur la présence de l'islam sont attestées au moins à partir du milieu du XIIIe siècle. C'est le grand voyageur dominicain Guillaume de Robrouck qui nous rapporte cette présence quand il va voir la cour du Grand Khan. Donc l'islam est aussi présent. Actuellement, l'islam est la religion surtout de la minorité kazakh, de la diaspora kazakh, qui est présente en Mongolie. En faisant anciennement le parti de même empire mongol, il y a aussi dans la partie occidentale de la Mongolie une forte présence de la minorité kazakh qui traditionnellement sont musulmans. Actuellement, après cette liberté religieuse officiellement annoncée en 1993, il y a aussi d'autres religions qui sont venues, notamment les églises évangélistes qui sont très prosélytes, il faut le dire. Voilà. Mais aussi d'autres religions ou mouvements religieux sont présents, comme les témoins de Jéhovah, comme les Mormones, aussi d'autres minorités qui relèvent plutôt des mouvements religieux qui, dans certains pays, pourraient être considérés comme les dérives sectaires. Nous le savons qu'en France, par exemple, c'est une grande question de trouver même la formulation qui pourrait qualifier certains mouvements aux dérives sectaires, mais toutes ces religions actuellement cohabitent en paix. Cela, il faut le dire. Bien évidemment, il y a le contrôle de l'État, mais qui est plutôt favorable et, dans la manière de développement des activités communes, notamment en ce qui concerne le service social. Dans la société mongole.
Oui, vous suivez le dialogue des religions sur VOA Afrique. Nous explorons les moments clés de la visite du pape François en Mongolie et ses implications sur la diplomatie et le dialogue interreligieux. Notre invité, le père Grégor Pichotko, il est chancelier du diocèse de Pantoise en région parisienne, docteur en droit canonique notamment. Père Grégor, quels sont les opportunités et les défis dans la tentative de rapprochement entre le Vatican et la Chine?
Voilà, je crois que depuis le pontificat du pape Jean-Paul II, qui vraiment ciblait deux grandes puissances mondiales où les catholiques sont présents, mais qui sont issus d'une histoire marquée quand même par les régimes très, on peut dire, presque totalitaires ou même totalitaires. Donc, c'était l'Union soviétique, donc, et puis la Chine. Le pape lui-même n'a pu jamais aller ni en Union soviétique, ni en Chine. Et ensuite, il a réussi à venir dans certains pays de l'ancienne Union soviétique, dont faisait partie la Lettonie, Lituanie, le Kazakhstan, etc., en Ukraine notamment. Mais la Chine, c'était toujours... les relations étaient toujours bien évidemment très compliquées, puisque la politique de la Chine concernant les religions, notamment l'Église catholique, qui actuellement dénombre, on ne sait pas exactement parce que il n'y a pas de recensement officiel, bien évidemment, dans ce pays assez hostile aux religions en général, mais à peu près 12 millions de catholiques. Et donc, bien évidemment, le pape ne peut pas négliger cette communauté très grande. Je crois que justement, son voyage en Mongolie, le pays voisin de la Chine, où il envoyait des messages, je dirais qu'entre les lignes, on pouvait lire que certains messages ont été adressés, y compris au gouvernement chinois, en disant qu'il ne faut pas avoir peur de la présence catholique, que ce n'est pas une sorte d'invasion d'une puissance étrangère, mais que la communauté catholique pouvait jouer un rôle important justement dans le développement actuel de ce pays. Bon, on sait que le développement économique est fulminant. Voilà.
Justement, quelles sont les implications à long terme de cette visite du pape en Mongolie pour la diplomatie internationale et le dialogue entre les religions?
Oui. Donc, on sait que l'année dernière, le gouvernement chinois et le Vatican ont signé un accord sur la question épineuse de la nomination des évêques. Mais d'accord qui était très critiqué, on sait que en pratique, le gouvernement chinois n'a pas toujours respecté cet accord, que l'Église continue à être détruite, qu'il y a toujours la chasse aux chrétiens qui étaient fidèles à l'Église de Rome et ne voulaient pas fréquenter l'Église populaire chinoise. Et les relations sont toujours très difficiles. Notamment concernant par exemple les relations avec les bouddhistes et avec Dalai Lama, le Saint-Siège a dû renoncer à plusieurs reprises de rencontrer, le pape a renoncé à plusieurs reprises de rencontrer le Dalai Lama, juste parce que la Chine menaçait le Saint-Siège avec certains mesures qui seraient prises contre les chrétiens, notamment parce que cela touche à une sensibilité politique de l'État chinois actuel. Mais à mon avis, le Saint-Siège ne délaisse jamais jouer sur d'envoyer des messages et de tenir, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de relation diplomatique non plus entre le Saint-Siège et la Chine, mais le Saint-Siège ne change jamais sa position parce que il y a des messages qui sont envoyés régulièrement, notamment de la Mongolie, le pays voisin, où on peut voir que la Mongolie, qui est bien évidemment très ouverte vers la Chine, parce qu'il y a les liens économiques. Elle est très ouverte aussi vis-à-vis son voisin russe, parce qu'également, il y a des liens économiques qui sont nécessaires à la vie du pays, mais que dans le contexte similaire, en ayant peut-être l'héritage historique aussi commun, comme la Chine et la Mongolie, on peut tout de même essayer d'adopter une position plutôt plus mitigée vis-à-vis des religions présentes, que la religion ce n'est pas une menace, que les valeurs qu'elle apporte peuvent être très constructives pour la société. Je parle notamment sur l'exemple du Kazakhstan, mon pays natal, aussi un des voisins de la Mongolie, où effectivement cette position a été adoptée à l'indépendance du pays, avec la présence de nombreuses religions. Et cette cohabitation paisible, et notamment justement dans les tensions qui pouvaient être provoquées par le contexte politique, la religion jouait le rôle de celui qui apporte la paix, et non pas de facteurs de religion ou d'influence étrangère, etc., ce que peut être quelquefois récriminé par le gouvernement chinois vis-à-vis notamment de la religion catholique. Je sais que le Saint-Père, Saint Jean-Paul II, a envoyé à plusieurs reprises un de ses représentants qui a fréquenté la Chine à quelques reprises, qui a eu un dialogue peut-être qui a porté ses modestes fruits, c'était le cardinal Roger Etchegaray, qui représentait le pape à plusieurs reprises dans ses visites qui n'étaient pas trop officielles, mais qui menaient vers le dialogue. Et je crois que le souci de Saint-Siège de maintenir le dialogue avec le gouvernement chinois, avec la société chinoise, d'encourager les catholiques qui sont présents sur le territoire chinois, qui sont très nombreux, et de montrer sur l'exemple d'autres pays voisins que la coexistence paisible et la vie des croyants et leur valeur qu'ils peuvent apporter, ce n'est pas un danger pour une unité nationale politique, mais au contraire, quelque chose qui peut apporter des valeurs universelles pour tous.
Merci, mon père. Le temps qu'on a pour cette émission vient malheureusement de prendre fin. On aura compris que le dialogue interreligieux peut contribuer à promouvoir la paix et la compréhension mondiale. Si les responsables des nations choisissaient la voie de la rencontre et du dialogue avec les autres, ils contribueraient de manière décisive à mettre fin aux conflits qui continuent continue à faire souffrir tant de peuples, a dit le pape François. Et c'est la fin de ce dialogue des religions consacré ce soir à la visite du pape François en Mongolie. Un déplacement axé sur la diplomatie et le dialogue interreligieux. Merci beaucoup au père Grégoire Prichotko qui nous a aidé à comprendre cette visite en Mongolie. Merci à Georges-Éléon Arsagnou qui assure la mise en onde. Eric Manilakis a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Au revoir.